C'est bon? Voilà, on peut s'encourager un peu par la parole? Ok. Voilà, on va lire Ésaïe, un texte que j'aime bien. Ésaïe 64. Je lis. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face. Et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont un désert. Sion est un désert. Jérusalem, une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu? Est-ce que tu te tairas et nous affligeras à l'excès? Moi, ce texte me parle beaucoup et ce qui retient mon attention, c'est surtout le verset 9. Tes villes saintes sont un désert. Sion est un désert. Jérusalem, une solitude. Et je me dis, mais comment cela est arrivé? Et dernièrement, quand on parle de désert, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis passé dans le désert entre le Tchad et le Niger. J'ai fait cela en aller-retour. Mais quand on dit désert, c'est vraiment désert, c'est sec. Il n'y a pas de vie. Et on parcourait ça tu peux passer toute une journée en train de rouler. C'est un petit peu comme quand vous êtes en mer. Vous voyez pas la fin de l'eau, en fait. Et le désert, c'est pareil. Vous voyez pas la fin du sable. C'est une étendue, mais je ne sais pas sur des kilomètres et des kilomètres. Et il y a une chose en allant dans le désert qui m'a toujours frappé. Et je ne sais pas comment ça se passe. Vous voyez autour de vous aucune vie, mais vous vous garez, vous sortez de la voiture. Les premières choses qui vont vous accueillir, ce sont les mouches. C'est étonné. Et j'ai toujours posé la question, qu'est-ce qu'ils mangent dans le désert? Et pourquoi ils sont dans le désert, ces mouches? Quelqu'un sait un peu? Peut-être vous avez étudié le désert un jour, moi je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je n'en vois pas. C'est que du sable. Et pour la simple question, c'est que en venant, on suivait un pipeline qui amenait le pétrole. Et la route allait tout le long de ça. Et arrivé à un moment, j'ai mon neveu qui conduisait avec moi. Et il fallait traverser, passer sur le pipeline. C'est comme si on avait pris notre voiture, on a mis le pont sur le tuyau du pipeline. Et les deux roues qui faisaient comme ça, ça n'adhérait pas. Alors du coup, on a fait 40 minutes, presque 50 minutes. Personne ne nous dépassait et personne ne venait. Alors on est resté là, on dit, mais comment on va faire? Et il n'y a même pas, je suis allé chercher pour trouver au moins une petite pierre comme ça, au moins pour que la voiture puisse adhérer. Il n'y a pas possibilité. Mais j'ai regardé de loin, il y avait, comment on appelle ça, les carcasses d'un âne qui était mort de soif. Voilà. Et je suis allé vers ce âne. Et bizarrement, j'ai vu que à côté de l'âne, il y avait sa mâchoire. Et le verset de Samson qui a tué, comment on appelle, les Philistins avec une mâchoire d'âne, m'est revenu. Et j'ai pris les mâchoires d'âne. J'ai dit, Seigneur, tu vas nous sortir de là. Et c'est la seule chose que j'ai pu trouver. Et je suis venu, j'ai trouvé mon neveu, j'ai dit, écoute, tu soulèves l'autre côté, on met le cric, et puis là, on met les mâchoires d'âne. Il m'a regardé bizarrement. Mais je vous assure que cette mâchoire d'âne nous a sauvés, et on est sortis de là. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne peux pas vous expliquer. Mais j'ai vu comment une ville comme Jérusalem est devenue un désert. Pourtant, c'est là où Dieu a dit « ma présence sera ». La présence de Dieu était là. L'onction de Dieu était là. C'est le peuple de Dieu, mais c'est le même Dieu qui dit « Jérusalem est devenu un désert ». Et je me suis dit « mais nous au Niger, on est doublement désertique ». Il y a déjà le désert physique, mais il y a aussi le désert spirituel. Moi, je ne sais pas comment vous en êtes ici. Je vois quand je viens chez vous, tout est vert. Il y a tellement d'arbres, c'est beau. Mais il pleut beaucoup, ça c'est sûr. Mais je vois aussi qu'il y a le désert spirituel aussi qui avance. Ça prend les vies. Là où, dans le temps, on voyait la présence de Dieu dans l'Église avec des dons, des prodiges, des signes, aujourd'hui c'est désertique. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai identifié deux choses qui, petit à petit, on fait que l'Église a perdu sa puissance. Nous avons un ennemi qui est très malin. Le diable. Parce que s'il y a une entité qui dérange le diable dans le monde, c'est l'Église. C'est l'Église. Et elle a réussi, lui, il a réussi à soumettre l'Église, à faire de l'Église un désert, une solitude, où on ne sait même plus, comme disent les catholiques, à quel saint se vouer. On entend parler de la vie de Dieu, de l'onction de Dieu, mais des fois c'est comme si ça ne va pas. On a des cas, on a des problèmes, on a des difficultés. On voit les foyers chrétiens qui volent en éclats. Les divorces, n'en parlons pas. Les enfants qui sont dans les rues. L'alcool. Les addictions. On a l'impression que c'est un désert. Et j'ai vu que ce qui a beaucoup contribué, c'est le sexe. La sexualité. Aujourd'hui, on n'en parle pas dans nos églises. Ou bien on ne veut pas en parler. Dernièrement, quand j'allais au camp de jeunes au Tchad, je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire à ces jeunes? Parce que au niveau de la délivrance, quand je prie pour les gens, j'écoute les gens, mais c'est le problème sexuel. Pourquoi? Parce que le sexe, excusez-moi de vous le dire, le sexe, c'est un culte. Ouais. Si vous le faites selon Dieu, vous rendez un culte à Dieu. Parce que c'est dans le sexe que tous nos enfants naissent. La fondation d'une famille est dans la sexualité. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est quelque chose de très beau. Et tous vos progénitures, vous allez les obtenir dans le sexe. Et le diable le sait. Il sait que en vivant d'une manière qui ne glorifie pas le Seigneur, on va lui rendre un culte. C'est pour ça que vous regardez qu'il a mis le sexe à profusion. C'est partout. À toutes les sauces. Nos jeunes gens ne se gardent plus purs. Nos jeunes filles ne se gardent plus vierges. Et il y a tout un amalgame. Et quand on étudie dans la Bible, on se rend bien compte que non, c'est pas comme ça que Dieu a fait. Non. Dieu voulait que le jeune garçon et la jeune fille arrivent au mariage pur. Et ça le glorifierait parce que le jeune garçon chez les Juifs, là où je vous dis que c'est un culte. Pourquoi? Parce que la circoncision, le huitième jour, n'est-ce pas? L'enfant est circoncis. Et qu'est-ce que Dieu dit? C'est le signe de l'alliance entre le jeune garçon et lui. Une alliance. Parce qu'il y a du sang qui coule. Dieu établit avec le petit enfant une alliance. Parce que chez le juif, le garçon, excusez-moi s'il y a des féministes ici. Je dis ce que la Bible me dit, hein. S'il y a des féministes, vous m'excuserez. Il y a une hiérarchie chez Dieu. L'homme est le chef de la... Jésus est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, voilà. Et c'est pour ça que l'homme a une alliance avec Dieu. Et je me suis posé la question, j'ai dit, et la femme alors? Elle a son alliance quand? Avec Dieu. Et c'est là que j'ai remarqué que la femme aussi a une alliance. Son alliance, elle l'établit avec son mari. C'est le jour des noces. Ou lors de leur rapport sexuel, il y a l'hymen elle va être diversée. En ce moment, il y aura du sang qui coule. Elle établit un pacte avec son mari. Une alliance avec son mari. Et le diable ne veut pas ça. Il ne veut pas qu'il y ait ces alliances-là. Et du coup, on couche avec n'importe qui. On va avec n'importe qui. Et puis finalement, moi je ne sais pas, les pasteurs de l'église ici, je ne sais pas comment ils gèrent ça. Les couples viennent avec des démons, mais terriblement. Parce que l'autre a parcouru. La fois dernière, j'étais à Strasbourg, je discutais avec une dame, elle voulait que je prie pour elle. Et puis j'ai dit à la dame, mais ça va, t'es au point de vue sexuel, ça va? Elle me dit, je ne sais même pas avec combien d'hommes je suis allé. Je ne connais pas le nom. Mais une vie comme ça. Alors, on vit n'importe comment et on attend la bénédiction de Dieu. On attend la protection de Dieu. Moi, je ne sais pas comment ça peut se faire. Ce n'est pas faisable. Dieu ne peut protéger que celui qui obéit à sa voix. Et c'est pour ça que nous rendons avec le sexe tellement de culte à Satan que les démons se multiplient dans l'église. Moi, j'ai rencontré des gens qui sont addicts à la pornographie, qui pleurent. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais qui fait ça? C'est Dieu? Non. Et quand nos enfants, je vagabonde sexuellement et que je vais fonder un foyer et que mes enfants tournent mal, j'accuse qui là? Dieu nous appelle à la sainteté. Il y a des instructions, il y a des ordres qu'on doit respecter. On ne peut pas vivre n'importe comment. Et c'est pour cela, justement, quand je vis n'importe comment et que je veux utiliser une autorité spirituelle contre les esprits, ils savent ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, je n'aurai aucune autorité parce qu'ils savent. Dernièrement, j'étais au Tchad. J'étais en prière et j'ai demandé qu'on me donne un pasteur pour venir m'aider. Et la personne pour laquelle je priais, elle s'est mise à ricaner quand le pasteur est entré. Elle dit, toi aussi? On était obligé de le sortir. Oui, Satan sait, il tient les gens par la sexualité. Dépravation sexuelle. Et vous savez, quand vous lisez la Bible, et il est fâché. Dieu est fâché contre l'infidélité. C'est l'un des péchés dans la Bible où on nous dit, on négocie pas avec, on fuit. L'impudicité. On fuit ça. Vous voyez comment c'est à profusion. Vous cliquez, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Et nos enfants sont liés, nos femmes sont liées, même des pasteurs sont liés. Et voilà, comment voulez-vous qu'à côté de ça, il y ait l'onction? Bah, dites-moi. On n'en parle plus de ça aujourd'hui. Et quand j'ai expliqué aux jeunes, voyez, vous connaissez, peut-être vous entendez parler de ce phénomène de mari de nuit et de femme de nuit. Et c'est ces esprits-là qu'on appelle des nymphes qui dans la nuit, violent des femmes. Je connais une fille à Bienne qui n'arrive pas à s'en défaire. Elle est comme torturée la nuit. Oui, c'est quand on donne notre virginité à quelqu'un, on couche avec n'importe qui, mais on a fait la volonté de qui là? Quand on couche avec n'importe qui, hors mariage, on a fait la volonté de qui? Hein? Du diable. Et pour nous satisfaire, pour que, voilà, qu'est-ce qu'il va envoyer? Il va envoyer ses démons en nous. Quand nous faisons la volonté de Dieu, il envoie son Saint-Esprit en nous pour nous aider, n'est-ce pas? Le diable, lui, fait pareil. Et c'est pour ça que je comprends mieux Genèse 6, où on dit que les fils des dieux sont venus vers les filles des hommes. Et ce sont ces esprits-là. Et quand l'homme et la femme vont vivre n'importe comment, ils ramènent ces géants à la maison, qui s'installent et détruisent les foyers. Vous imaginez pas le... Je sais pas comment ça se passe chez vous. Le divorce est incroyable. Pour un oui, pour un non. Avant, au moins, on demandait au couple si vous vous êtes connus avant le mariage. Maintenant, on n'en parle même plus. Personne n'en parle. C'est devenu, si tu parles, c'est que tu es revenu dans les années 50 ou 60, je ne sais pas, c'est 40. Mais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de désert spirituel? C'est exprès. C'est le prince de ce monde qui, petit à petit, a envahi l'Église. C'est pour ça que je dis, je le prêche à mes enfants, je prêche aux jeunes. Ne jouez pas avec la sexualité. C'est l'avenir de vos enfants. Moi, j'ai dit, moi, on ne me l'a pas dit. Mais moi, je vais vous le dire. Ne jouez pas avec ça. Attendez. Attendez jusqu'au mariage. C'est ça le plan de Dieu. Et quand on l'attend, le diable est fâché. Il aimerait que tout le monde couche avec n'importe qui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je vous assure, si l'Église, si vous voulez relever l'Église, remettons les choses à leur place. Alléluia. Que les choses soient dites, qu'on le dise. C'est des démons, c'est des esprits méchants qui ont envahi nos églises. Ça fait que on ne voit plus, comme l'auteur disait, tout ce qui était précieux pour nous sont en flammes. Ça brûle de partout. On a quelque part comme si c'est d'une prospérité. Mais la prospérité spirituelle, elle est très loin de là. Moi, je vous assure, je rêve à voir la puissance de Dieu agir. C'est cela. Le monde a besoin de voir des chrétiens qui disent « Voilà ce que Dieu dit et Dieu le fait. » C'est cela l'évangélisation, c'est cela le témoignage. C'est quand ils le verront le Seigneur en nous. Et quand ils nous regardent comme ça, ils sentent qu'il y a le Seigneur. Moi, je suis, des fois quand on me prend en voiture ici, vous savez, vous avez des voitures qui sont très impressionnantes. Même quand tu sors de la ligne blanche, il commence à sonner, bip, 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 bip. Il a des capteurs. C'est pas vrai? Tu t'approches d'un mur, il commence à crier là. T'as pas mis ta ceinture, il crie. Il y a des capteurs. Ceux qui sont autour de nous, ils ont des capteurs. Ils regardent. Ils cherchent Dieu au travers de nous. Dieu ne va pas descendre. Mais ils veulent voir l'onction au travers de nous. Alléluia. Et c'est quand la puissance de Dieu va se manifester qu'ils vont dire, Dieu est là. Dieu est là. Mais quand tu es accablé, quand toi-même tu luttes, quand tu te bats, quand tu es enchaîné, comment tu vas sortir de là? Lui aussi, il est enchaîné. Vous savez, il y a des gens, je ne sais pas si ça existe chez vous, mais il y a des gens qu'on dit, ils ont le troisième œil. Ils voient. Ils vous regardent, ils voient. Ils savent. Remettons les choses à leur place. Disons à nos jeunes, disons à nos enfants que Dieu veut la pureté. Alléluia. Deuxième truc que j'ai remarqué, je ne sais pas si ça existe chez vous, mais chez nous, c'est la sorcellerie, la magie. Ça envahit nos rangs. partout, il y en a. Et j'ai remarqué aussi que chez vous, il y en a aussi. Mais ils sont en costume cravate. Et ils ont des termes scientifiques. Nous, on voit la sorcière, on voit le sorcier, nous. Mais vous, c'est pas comme ça. Ils ont des noms scientifiques. On dit ésotérisme, voilà. Il y a tellement d'ismes dedans. Mais c'est les mêmes choses. Le but, c'est de nous envahir. Envahir l'Église. Ce n'est pas les autres. La seule entité qui tient tête encore au diable, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est pour ça, réveillons-nous. N'acceptons pas ça. Il veut nous abattre. Lèvons-nous. Disons non à ces choses. Remettons Dieu à sa place. Amen. Remettons notre Seigneur à sa place. Et je peux vous dire, les gens vont venir. Sans ça, ce serait le désert, la solitude. Et si on ne fait pas attention, ils prennent même dans nos rangs. Ils enrôlent même dans nos rangs. Je prie que l'Église que vous êtes se réveille. Dieu est avec vous, vous savez. Alléluia. Dieu est avec vous. Et j'ai remarqué que toutes les églises, partout où je vais, Dieu est là. Mais Satan nous tient comme des captifs. On doit dire non. C'est assez. Nous relever. Jusque-là, tu nous as trompés, mais pas maintenant. Alléluia. Je vais me libérer de ça pour servir mon Seigneur, afin que celui qui, mon voisin, ceux qui m'entourent, sache qu'il y a un Dieu vivant. Et je prie pour vous, que le Seigneur vous aide, qu'il nous aide tous ensemble, afin qu'on relève le défi. Il y a de l'espoir pour l'Église. Et je prie que l'onction remplisse vos vies et que vous saisissez cela. Soyez bénis. Merci.